L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas si vous vous posez la question, mais en tout cas, moi, c'est une question que je me pose vraiment en voyant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est de savoir, est-ce que les réseaux sociaux et la démocratie sont compatibles? Ou est-ce que la démocratie peut survivre aux réseaux sociaux? Et pour répondre à cette question complexe, a priori, je reçois Nicolas Van Der Beest, qui est le directeur des opérations chez Sapeur Vedere. Vous allez voir que c'est une conversation qui est très courte, donc peut-être un peu frustrante, mais moi, je la trouve passionnante. Si vous en demandez plus, je pense que je vais le faire de toute façon, un deuxième épisode avec Nicolas. Je pense qu'il y a énormément de choses à creuser de ce côté-là. C'est vraiment, vraiment passionnant. Bref, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour Nicolas.
Bonjour.
On va parler d'un sujet qui est complexe et en même temps passionnant, qui est la démocratie et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est compatible? Toi, tu es directeur des opérations chez Sapeur Vedere et tu as beaucoup fait parler de toi, en particulier cet été, sur l'affaire Benalla. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu?
Alors, sur l'affaire Benalla, en fait, il y avait une étude qui était sortie sur la désinformation. Faut savoir, c'est un travail que je fais depuis des années. Je fais ça sur les Macron Leaks en temps réel. Je l'avais sur la rumeur des Bahamas. Mais là, c'était dans un contexte d'élection. Donc, j'étais un peu un chevalier blanc.
Ouais.
Alors qu'en fait, pendant l'été, j'ai fait exactement la même chose que je fais d'habitude. Sauf que là, j'étais un chevalier noir au service de l'État. Et qu'il y a eu une désinformation sur la désinformation, puisqu'on a dit qu'un fichier qui avait circulé était du fichage politique avec plus de 50 000 individus. Or, c'est juste les pseudos et leur nombre de tweets. Ce qui est accessible à peu près sur toutes les plateformes disponibles et très facilement et gratuitement.
Et pour revenir, ce que tu as essayé de faire, c'était de savoir quelle était la provenance de ces tweets, c'est ça?
En fait, je le prenais comme cas parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu actuel justement pour la démocratie de pouvoir identifier les comptes qui sont susceptibles des acteurs de désinformation ou d'ingérence étrangère. Et c'était dans le prolongement justement de toutes les études que j'avais fait pendant la présidentielle française, mais aussi sur la présidentielle italienne, où je testais en fait certains indicateurs qui étaient assez prépondérants. Et donc je voulais tester à ce moment-là un sample, c'est-à-dire un échantillon autour d'un cas, et de retester la méthode et aussi de partager du coup avec les gens les données, ce qui était problématique justement, et aussi les choses pour qu'en fait on revienne après sur d'autres opérations et que par un mécanisme d'espèce de triangulation, on puisse pouvoir identifier ce phénomène.
Et ce que tu avais trouvé, c'est que finalement, la majorité des tweets étaient diffusés par un très petit nombre de personnes, c'est ça, hein?
C'est-à-dire qu'il y avait 1% des auteurs qui avaient publié 48% du contenu. Et justement, c'est en partageant ce fichier-là avec le nombre de tweets par individu que j'ai eu un petit couac, comme on dit.
Un petit accrochage.
Ouais.
On va revenir à la base. Si on parle de démocratie et réseaux sociaux, la première question qu'il faut se poser, je crois, et on en discutait un petit peu avant, c'est est-ce que les réseaux sociaux, c'est le peuple? Pour toi, est-ce que c'est une représentation Twitter, Facebook? Facebook est utilisé par la majorité des Français aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que les réseaux sociaux, c'est le peuple?
Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le peuple, qu'est-ce que c'est? On parle davantage en fait en démocratie de citoyens. Citoyens depuis la Rome antique, c'est un concept qui a été très problématique, très discuté. Qu'est-ce qu'un citoyen? Qui peut être citoyen? Un genre de choses. Et finalement, la démocratie, quand on l'observe dans sa forme 1.0 en quelque sorte, elle est fermée. C'est un système fermé en fait. Vous ne pouvez pas voter si vous n'êtes pas du pays dans lequel vous votez. Vous pouvez pas voter si vous n'avez pas un certain nombre d'années. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas voter. Et donc c'est quelque chose qui doit s'acquérir. Or, en fait, sur les réseaux sociaux, bah, vous pouvez parler très bien de l'affaire Benalla qui concerne la France tout en étant en Italie, aux États-Unis, en Russie, en Chine, etc. Donc, il n'est pas du tout fermé. Et donc, il peut y avoir tous des acteurs qui viennent s'immiscer à l'intérieur. De la même manière, plutôt que démocratie, les réseaux sociaux sont davantage un marché de l'information. C'est l'information qui est complètement dérégulée. Ou si on devait faire une métaphore un peu, et Gérald Bronner, qui est un sociologue, le fait très très bien, il dit qu'en fait ce marché est complètement décorrélé. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un marché de production et que cette production est davantage assurée par les gens qui sont les plus radicaux. Plus vous êtes radicaux, plus vous avez tendance en fait à publier. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont compris le pouvoir qui s'offrait à nous. Le pouvoir des réseaux sociaux, c'est que chacun peut publier n'importe quoi. Sauf qu'en fait, ce pouvoir, tout le monde ne l'a pas pris de la même manière. Quand vous allez voter en démocratie, vous avez chacun le même pouvoir. Un homme, une voix, on dit en démocratie. Or, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voter 200 000 fois, puisque vous pouvez publier et être vu par les autres. Mais aussi, c'est les personnes radicales qui ont pris le plus la chose. Pourquoi ? Parce qu'elles estimaient qu'elles n'étaient pas représentées dans les médias traditionnels. Donc, ils publient davantage, ils sont radicalisés. Et aussi, quand vous votez, vous pouvez voter blanc, même si ça n'est pas toujours comptabilisé, ce genre de choses. Mais vous pouvez dire « je n'ai pas d'avis ». Or, sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas d'avis, vous ne publiez pas. Si vous êtes pour ou contre la burqa, vous allez dire si vous êtes pour, vous allez dire contre, mais vous allez jamais dire je ne sais pas de quoi je dis. Ce qui étonne toujours quand on a les sondages, par exemple du Parisien ou d'autres médias, vous avez ces fameux sondages de comptoir et vous avez toujours des gens qui prennent le temps à écrire bah, je n'ai pas d'avis. Et on se dit toujours mais quels sont ces clantres qui mettent sans avis. Ben en fait, c'est une majorité ces gens-là. Seulement, en fait, sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas comptabilisés.
En fait, il y a une majorité silencieuse.
Il y a une majorité qui est silencieuse, qui observe, et on dit souvent dans le truc du marketing, c'est 1% de producteurs, 10% de personnes qui relayent et 90% qui sont des simples observateurs. Ben, c'est exactement la même chose. Et donc, ça donne l'illusion que ce marché-là, cette production, elle est davantage radicalisée. Et comme il y a ce qu'on appelle l'effet wagon, en fait, c'est quelque chose qui a été théorisé en sciences sociales et qui dit qu'en fait, les personnes dans une situation d'ignorance ou ils ne savent pas ont tendance en fait à suivre la majorité. Et quand vous avez finalement une projection de la majorité, cette projection de la majorité, eh ben, elle est radicalisée et donc elle est complètement décorrélée. Et donc, elle ne peut que produire une société davantage radicalisée et radicalisée et radicalisée. De la même manière, vous allez pouvoir trouver vos niches. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement radicalisé ? Parce que les plateformes aussi, par leurs algorithmes, l'architecture, la structure de la plateforme, ont encouragé ça. Un bon contenu, c'est un contenu qui engage. Le community manager sait qu'il a davantage de résultats s'il poste un chat que s'il poste quelque chose d'hyper rationnel sur son domaine. Ben forcément, à un moment, vous avez des gens qui réingèrent ces choses incessamment et qui du coup produisent des choses plus radicales, qui suscitent plus d'émotions que la rationalité. Et donc c'est un marché aussi de la radicalité à ce niveau-là. Donc, s'il faut reprendre la question de départ, non, ça n'est pas le peuple, parce que, un, ça n'est pas représentatif, deux, on ne peut avoir une opinion que si on en a une, trois, ces personnes-là ont plus de résultats si elles sont radicales, donc sont poussées à être plus radicales, les algorithmes les push davantage, et enfin, un truc qu'on n'a pas encore abordé, mais le fait que finalement, ceux qui se sont structurés dans des communautés sont ceux qui ne trouvaient pas ce qui leur plaisait dans les médias traditionnels. Mais c'est pas forcément on va dire simplement le fait que j'aime pas ce que dit Le Monde ou autre, mais vous êtes fan de cheval, vous adorez les chevaux, mais vous n'avez pas trouvé une rubrique cheval dans Le Monde, mais sur les réseaux sociaux vous pouvez le trouver.
Bien sûr.
Et vous allez trouver des gens qui aiment les chevaux comme vous, et donc vous allez petit à petit les suivre et petit à petit vous allez former des communautés et du coup, vous ne verrez plus que des chevaux. Et donc, ça, c'est le dernier, la dernière chose, c'est que votre idée n'est plus un vivre ensemble. C'est une communauté qui est propre à vous. Et donc, on n'a plus les mêmes marqueurs informationnels. Et c'est ce qui joue énormément sur les réseaux sociaux et c'est dont se servent les ingérences étrangères, c'est jouer sur le cadrage des événements. C'est pas tant la désinformation et les fake news qui est problématique dans le monde actuel et les réseaux sociaux, c'est le cadrage de l'information en tant que telle. Une information est vraie, c'est un fait, mais c'est la façon dont vous allez voir la paire de lunettes que vous allez apposer devant qui est différente. Et quand vous avez toujours la même paire de lunettes, sur tous les événements, vous allez trouver, en fait, encore et encore, des corrélations entre tous ces faits-là qui n'ont une explication que votre paire de lunettes. Et donc, on ne parle plus de faits, on ne parle plus que de paire de lunettes. Et donc, vous perdez des gens. C'est tout ça qui a fait qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas une représentation du peuple en tant que tel.
Et d'ailleurs, j'avais traité le sujet avec Guy-Philippe Kolstein dans un épisode précédent sur la manipulation des émotions sur Facebook. Ils ont été épinglés là par un rapport anglo-saxon. Ils ont été dénommés les gangsters de la démocratie, je crois, si je me souviens bien, qui est sorti cette semaine, hier. Toi, tu penses quoi de ce rapport? Est-ce que vraiment... parce que il y a les ingérences, enfin, tout ce que tu as expliqué qui est évidemment passionnant, mais il y a aussi la manière d'utiliser les algorithmes de Facebook pour justement balancer les personnes qui sont peut-être pas très stables, ce qu'expliquait Guy-Philippe, dans la peur, et donc les radicaliser à leur tour.
C'est pas vraiment les émotions qui sont problématiques dans Facebook, en tout cas dans la façon dont la désinformation circule. C'est le fait que j'ai accès à toutes des données qui sont justement des émotions. Parce que la politique, c'est une émotion. Mmh. Vous allez plus vers un homme politique qu'un autre parce qu'il vous suscite certaines émotions. Votre confession religieuse ou votre confession philosophique ou même sexuelle, c'est de l'émotion. Toutes ces données-là, qu'on appelle psychodémographiques, sont disponibles via les pubs. Et est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, je peux faire une publicité à des gens qui sont supporters de Marine Le Pen? Je pense pas que ça soit normal. De la même façon, je pense pas que ça soit normal de pouvoir viser des gens parce qu'ils appartiennent à la communauté LGBT. Et alors là, une fois que vous avez ça en jeu, vous pouvez jouer effectivement parce que vous allez, ce que les Russes ont fait aux États-Unis, vous allez cibler en fait des gens qui sont de la communauté LGBT pour qu'ils se mobilisent contre une église, parce qu'elle est contre les LGBT. Et après, une fois que les gens LGBT sont mobilisés contre l'église, vous allez mobiliser les gens qui sont très très religieux pour dire « regardez ces communautés LGBT qui se mobilisent contre l'église ». Et là, vous créez de la tension. Et donc, c'est pas vraiment cette émotionnalité qui est problématique dans les algorithmes, parce qu'en soi, l'algorithme de Facebook, c'est assez simple et c'est de l'engagement et ce genre de choses. C'est le fait que je puis avoir accès à des gens sous base de critères démographiques qui sont quand même très tendancieux, qui sont de l'ordre de l'opinion et qui sont accessibles à n'importe qui.
Et alors du coup, t'en as un petit peu parlé aussi, mais le deuxième problème finalement, c'est l'utilisation que font les médias, parce qu'en fait les médias prennent cette loupe, ils prennent cette lunette des réseaux sociaux pour traiter l'information. Alors déjà, il y a une accélération du temps évidemment, c'est-à-dire que on sait tous que la politique, enfin on sait tous plus ou moins, mais que la politique c'est du temps long, tandis que les réseaux sociaux c'est du temps, c'est même plus du temps court, c'est du temps immédiat, et ce qui pose évidemment un problème, voilà. Mais il y a aussi la lecture qu'on peut avoir des faits quand on les regarde à travers la loupe de Twitter, par exemple, non?
Oui, avant même les Macron Leaks, etc., je m'étais surtout fait connaître justement par le fait que j'avais démontré comment est-ce que en fait, l'extrême droite arrivait, par le biais des réseaux sociaux, à faire en sorte qu'un fait soit davantage publié dans les médias. Parce que les réseaux sociaux sont en feu, parce que si, parce que ça. Et en fait... c'est quelque chose que je n'ai pas encore écrit, mais que j'ai plus ou moins théorisé, c'est que je pense qu'il y a un essor non pas de l'information, mais de la méta-information. Ça n'est plus par l'information qu'un journaliste entre dans un fait, c'est par la méta-information. Je m'explique. Vous avez une personne qui se fait agresser par un musulman dans une commune, voilà, un petit endroit. Vous êtes un journaliste, vous recevez l'information sous forme de dépêche, c'est une rubrique des chiens écrasés, vous allez peut-être pas le publier, ou alors vraiment une brève, 5 lignes, ça fera en sorte que Tati Daniel soit très contente quand il lira son journal. De toute façon, il n'y a plus qu'eux qui lisent les journaux papier. Et maintenant, je reprends la même chose, les faits. Donc, quelqu'un qui se fait attaquer par les musulmans, mais c'est Trending Topic France. Comme c'est Trending Topic France, il y a 2 politiques qui ont commenté l'affaire, et puis tout d'un coup, en fait, j'arrive à un traitement presque national de quelque chose qui est de chien écrasé. Ça n'est pas l'information en tant que telle qui fait en sorte qu'elle monte dans la ligne éditoriale, c'est la méta-information qui fait en sorte que ça éclot. Et à mon sens, c'est ça le bouleversement qui est davantage présent, parce qu'en fait, ça a toujours existé. À partir du moment où un politique récupère un fait divers, il fait une déclaration, puis il y a l'opposition qui commence à réagir, et autres. Ça a toujours existé. Le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, c'est la masse agissante qui peut agir sur ces choses-là. Et on revient à ce qu'on évoquait en tout début de ce podcast, c'est que ça ne représente pas le peuple, qu'on a fait parfois passer des faits d'actualité en quelque chose de national sous base de 2008, je vous rappelle juste le burkini pendant un été, et toutes ces choses-là qui font en sorte que c'est bouleversé au point de vue de l'information. L'autre point, c'est que le mécanisme par lequel avant les journalistes allaient rechercher l'opinion, pouvaient la traiter, c'était le micro-trottoir. Il n'y a rien de plus con qu'un micro-trottoir. Vous allez à un micro-trottoir, vous allez plus ou moins dans la rue, vous essayez d'aller là à l'endroit où tout le monde passe, à la fois le riche, le pauvre, etc. Et vous allez le mettre. Maintenant, le micro-trottoir, c'est Twitter. Mais Twitter, c'est pas la même chose. C'est pas Tati Daniel, de nouveau la même, qui est sur Twitter et qui va commenter. Elle ne sera jamais dans l'opinion. De la même façon, on revient au début, c'est jamais quelqu'un qui n'a pas d'avis qui sera demandé. Et donc, on a des journalistes qui captent ces micro-trottoirs sous base de Twitter. Or, c'est davantage radicalisé, c'est davantage les opinions qui sont mises, c'est ce qui aura le plus de retweets qui sera repris, parce que du coup, on a l'impression que c'est ce qui mobilise les gens, alors qu'en fait, on mobilise juste ceux qui sont les plus mobilisés et ceux qui sont les plus structurés. Et donc, on est complètement en dehors. De la même manière, aujourd'hui, autour du débat des Gilets jaunes, on s'interroge sur l'état de la France en allant demander à des gens qui sont dans des manifs de Gilets jaunes. Bah non! Si vous voulez aller voir l'état de la France, allez un peu dans les villages, allez demander là-bas comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien, mais pas dans un endroit où vous êtes certain que vous allez d'office avoir un certain type de personne et de mouvement politique qui va s'exprimer. Donc c'est tout cette modification en tant que telle qui n'est pas... c'est pas nouveau. En fait, tout ça, tous les chercheurs en information, communication ou autre peuvent vous raconter l'histoire de tout ça. Et c'est pour eux, il n'y a rien qui change. C'est juste qu'aujourd'hui, on est un peu, si on devait comparer ça à un système qui est totalement sans cesse en rétroaction positive, on arrive juste au bout de la chose et on est à une coïncidence parfaite de tout avec de l'ingérence étrangère, avec des manifestations qu'on n'avait jamais vues qui étaient nées par les réseaux sociaux, avec une méconfiance des institutions, des médias et autres. Et tout ça, ensemble, fait en sorte qu'il y a un tremplin, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Et en même temps, quand Macron, par exemple, fait ce débat national, il fait exactement la démarche que tu expliques. Et en même temps, elle est extrêmement critiquée par ces partis extrémistes auxquels tu fais référence, parce que justement, ils sortent de leur cadre. C'est un peu ça l'idée, non ?
Mais si c'est une tentative de reprendre la main, c'est clair et net. C'est-à-dire, en gros, déjà, vous allez essayer de déstructurer l'opposition. Vous allez la faire paraître plus radicale. Puis, vous allez avoir une preuve physique que vous entendez les gens. Seulement, à ces grands débats, il faut que vous vous déplaciez, que vous ayez envie, que vous vous mettiez. Et donc, on est de nouveau, de la même façon, plus du tout dans le modèle traditionnel des mêmes gens. C'est un peu le pendant exact opposé.
Exactement.
Où ce sera très, très consensuel, finalement. On va rester dans les clous. On peut plus ou moins récupérer. On va englober la chose. On va plus ou moins faire éclore les tendances. Et puis, on ira. C'est un peu ce qu'on dit souvent. Enfin, ce qu'on disait souvent, c'est que les data ne mentent pas. On peut quand même leur faire dire ce qu'on veut. donc, c'est un peu exactement la même chose autour du grand débat. C'est pas négatif. C'est juste qu'il faut, si on analyse un pan, il faut analyser l'autre pan de la même manière. Et exactement. Je pense que c'est exactement les mêmes constructions.
Et la troisième, le troisième élément qui me semble important, donc on a dit un, les réseaux sociaux, c'est pas le peuple. De deux, le problème, c'est la manière dont les médias le gèrent. Mais de trois, c'est, ça revient dans la démocratie, parce que comment les politiques, eux, gèrent cette gestion de l'information. Parce que les politiques, eux, c'est la démocratie. En tout cas, c'est les personnes qu'on a élues pour représenter la démocratie. Comment ils gèrent ça, eux ?
Comme des branquignoles, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien. Enfin, il suffit de regarder simplement aujourd'hui les politiques sur Twitter. Soit il y a ceux qui se battent pour avoir la meilleure déclaration, le meilleur retweet, le meilleur machin. Soit ceux qui disent les réseaux sociaux, c'est tous des trolls. Allez vous faire foutre. D'ailleurs, on va faire une loi pour enlever l'anonymat. Puis il y a d'autres. Le fait est qu'en fait, c'est comme sur le digital ou autre. Les politiques actuelles n'en touchent pas une. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que c'était pas leur priorité. Et aujourd'hui, on a tout un pan technique qui s'est créé, mais ces pans techniques ne sont pas enseignés, inculqués dans les formations habituelles. Tôt, hein. Pourquoi ? Parce que généralement, ceux qui font cours de digital, je suis désolé, mais ils n'ont aucun retour là-dessus. La plupart, dans les grandes écoles de commerce et autres, ça n'est pas des chercheurs qui recherchent vraiment les choses et qui posent les faits. C'est plutôt des gens qui ont profité de l'essor et du surf sur le digital, qui se sont fait connaître parce qu'ils ont des followers, mais qui n'ont pas tellement de culture numérique, ou en tout cas, qui peuvent expliquer clairement à un politique pour pourquoi est-ce qu'il doit être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il doit écouter, qu'est-ce qu'il doit pas écouter, ce genre de choses. Donc on a un déséquilibre complet entre d'un côté des gens qui sont complètement ignorants en la matière, d'autres qui sont très très au fait, mais qui sont complètement enveloppés dans un bullshit total autour de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui reçoivent leur petit rapport mensuel sur ce qui se dit sur eux, mais n'ont aucune distance critique par rapport à ce que c'est, d'où ce que ça vient, qui s'exprime et qui ne vont pas finalement au-delà du bruit. Si aujourd'hui vous êtes un politique et vous ne comptez que sur Twitter, vous n'aurez jamais aucune voix pour vous. Parce que ça ne représente absolument rien. Il y a des gens comme ça qui ont pris ce biais-là et qui n'ont eu aucun résultat, alors qu'ils étaient très bons sur Twitter.
Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi tu veux claquer la porte aujourd'hui, justement.
Je plaque la porte de rien du tout. Moi, je pense qu'il faut plaquer la porte de rien du tout. Même moi, avec la crise que j'ai eue cet été, je claque pas complètement la porte. Je le prends... de manière beaucoup plus distanciée. C'est clair que je ne fais plus beaucoup de choses dans ce domaine-là, mais j'y garde quand même toujours un intérêt parce que je pense qu'au foncièrement, sur ce domaine-là, c'est passionnant. On en apprend tout le temps, à n'importe quel moment. On est dans la construction de quelque chose. On ne sait pas vers où on va. Donc, tout ce que j'ai envie de dire, c'est ne surtout pas claquer la porte de n'importe quoi.
D'accord. Mais c'est bien que tu viennes en parler en même temps. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup, Nicolas.
Pas de soucis.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.